VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 2 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Présidentielle du 7 octobre au Cameroun, visite aujourd'hui du président Paul Biya à Boya, en zone anglophone.
Début hier, à la CPI, des audiences sur une demande d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité.
Au Tchad, il n'y a pas eu de rentrée scolaire hier en raison d'une grève.
Et grève également en Guinée-Bissau, où 3 syndicats d'enseignants ont lancé hier un débrayage de 30 jours.
En Indonésie, 2 séismes se sont produits mardi matin au large de l'île de Sumba, après le séisme et le tsunami de vendredi qui ont fait au moins 2234 morts sur l'île des Célèbes.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, la tension reste vive dans les régions anglophones. Le président Paul Biya doit se rendre aujourd'hui à Boya, à quelques jours de l'élection présidentielle. Le point avec Raissa Girondin.
La venue du président camerounais à Boya est annoncée pour aujourd'hui. Ce sera sa première visite en zone anglophone depuis le début de la crise fin 2016. Après Maroua, dans l'extrême nord samedi dernier, ce sera son second déplacement de campagne avant le scrutin de dimanche. Pour le moment, aucun des 9 candidats n'a tenu de meeting dans les villes anglophones. Hier, les rues de Bamenda et de Boya, les 2 capitales régionales, sont restées vides, sauf pour beaucoup de militaires qui mènent des patrouilles. De leur côté, les séparatistes avaient appelé à des opérations ville morte pour célébrer le premier anniversaire d'une proclamation symbolique d'indépendance. Avec le couvre-feu de 48 heures hier à Boya, les transports publics et privés ont été interdits, les entreprises et les débits de boissons sont restés fermés. Dans la matinée, des tirs ont été entendus dans certains quartiers de la ville. C'est dire que la venue du président Biya sera certainement sous haute surveillance policière.
Au Niger, 8 mois de prison et 50 000 francs CFA d'amende ont été requis lundi par la justice à l'encontre de 3 acteurs majeurs de la société civile. Ces derniers sont emprisonnés depuis avril après une manifestation interdite contre la loi de finances 2018 jugée antisociale par les protestataires. C'est ce qu'a annoncé à l'issue du procès la coalition d'organisations où militent les prévenus. L'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre. Parmi les prévenus figurent Michael Zodi du mouvement international Tournons la page et Diori Ibrahim, membre d'Alternance Espace Citoyen, une des importantes organisations des droits de l'homme du Niger.
Début hier à La Haye devant la CPI, des audiences sur une demande d'acquittement de Laurent Gbagbo, accusé de crimes contre l'humanité. Des centaines de partisans de l'ancien président ivoirien sont venus lui apporter leur soutien, Eric Manirakiza.
La défense demande un non-lieu total. Après plus de 2 ans de procès, elle estime que les éléments de l'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable. Les demandes sont similaires dans le camp de la défense de Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, fidèle à l'ancien président. Les 2 hommes sont accusés de crimes contre l'humanité, notamment de meurtre, viol, persécution. Ils ont tous les 2 plaidé non coupables. Devant le centre de détention de la CPI, des centaines de partisans sont venus manifester leur soutien en scandant « Libérez Gbagbo » sous l'œil de dizaines de policiers. Les débats ont été diffusés sur grand écran, notamment à Onono et Yopougon, des quartiers populaires pro-Gbagbo à Abidjan. Les audiences devant la CPI sur la demande d'acquittement se tiendront jusqu'à vendredi. La décision des juges pourrait prendre plusieurs mois.
La rentrée scolaire n'a pas pu avoir lieu hier au Tchad, touché par une grève des fonctionnaires qui avait déjà marqué l'année scolaire 2017-2018. Le point avec Ekia Badou.
Les établissements primaires et secondaires du secteur public sont restés fermés à N'Djamena. Par contre, dans les établissements privés, la rentrée s'est déroulée normalement. La rentrée universitaire a été timide début septembre, les étudiants revenant surtout pour des cours de rattrapage. L'année scolaire passée, les élèves du public n'ont eu que 4 mois et demi de cours au lieu des 9 mois prévus. Une grève de la fonction publique pour réclamer le paiement intégral du salaire des agents d'État après une nouvelle coupe fin 2017 paralyse la plupart des services publics, dont la santé et l'éducation. La grève, débutée en janvier, a été suspendue en mars avant de reprendre à la fin mai. Les syndicats accusent le gouvernement de non-respect de l'accord qui devait supprimer les coupes salariales. Début 2015, le gouvernement de N'Djamena a mis en place des mesures d'austérité, dont des coupes chez les 92 000 fonctionnaires qui ont perdu un tiers de leur revenu total depuis 2016.
En Guinée-Bissau, trois syndicats d'enseignants ont lancé hier une grève de 30 jours pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. Des détails avec Morgane Guiriec.
À Bissau, la capitale, les écoles secondaires étaient fermées, mais les écoles primaires fonctionnaient après l'appel à la grève lancé par le syndicat national des professeurs, le syndicat démocratique des enseignants et le syndicat de l'enseignement supérieur. Depuis plusieurs années, les enseignants bissau-guinéens revendiquent le paiement d'arriérés de salaire des enseignants contractuel, l'adoption d'un plan de carrière et de meilleures conditions de travail. Après une grève de 2 semaines, ils avaient signé un accord avec le gouvernement le 27 novembre dernier qui prévoyait d'aligner la grille des salaires des enseignants sur celle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon Madame Kassama, président par intérim du SINAPROF, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. À la fin août, les fonctionnaires ont mis fin à une série de grèves après un accord avec le gouvernement sur une revalorisation du salaire minimum qui doit passer de 20 000 francs CFA à 50 000 francs CFA.
La situation sécuritaire au Nigeria, en proie aux attaques du groupe djihadiste Boko Haram, a connu une amélioration régulière et le gouvernement reste déterminé à mettre un terme à la crise, a affirmé hier à Abuja le président Muhammadu Buhari. Le chef de l'État nigérian prononçait son dernier discours à la nation à l'occasion du jour de l'indépendance du Nigeria avant la présidentielle de février 2019. Monsieur Buhari, qui brigue un deuxième mandat, a défendu son bilan dans une allocution apparue comme le manifeste de son gouvernement. Monsieur Buhari, un ancien militaire de 75 ans, devrait être investi ce week-end candidat par son parti, l'APC, au pouvoir. Le principal parti d'opposition, le PDP, devrait également désigner son candidat.
La première dame des États-Unis, Melania Trump, a entamé hier un voyage d'une semaine au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Égypte pour cette visite diplomatique et humanitaire. Selon les termes de sa porte-parole, Stephanie Grisham, elle entend mettre l'accent sur les enfants. Que ce soit pour l'éducation, la dépendance des drogues, la faim, la sécurité sur Internet, les intimidations, la pauvreté ou les maladies, ce sont trop souvent les enfants qui sont les premières victimes dans le monde, expliquait Madame Trump il y a quelques jours depuis New York. Au-delà de rencontre avec d'autres premières dames, elle entend mettre en lumière le travail de l'USAID, l'agence américaine pour le développement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Indonésie, 2 séismes de magnitude 5,9 et 6 se sont produits mardi matin à un court intervalle au large de l'île de Sumba, dans le sud de l'archipel indonésien, a annoncé l'Institut géologique américain. Sumba est situé à 1600 km au sud de l'île des Célèbes, où un séisme et un tsunami ont fait vendredi, selon le dernier bilan, 1234 morts.
Le plus grand et le meilleur accord commercial jamais conclu dans le monde, c'est en ces termes que le président américain Donald Trump et les membres de son administration ont salué le nouvel accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour M. Trump encore, cet accord historique va attirer de l'argent et des emplois aux États-Unis et en Amérique du Nord. Le Canada et les États-Unis ont annoncé dimanche soir, une demi-heure seulement avant l'expiration de l'ultimatum fixé par Washington, un accord de principe de concert avec le Mexique pour réformer le traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, vieux de près d'un quart de siècle.
Toujours à Washington, la Maison-Blanche a donné au FBI l'autorisation de parler à toute personne qu'il va interroger dans le cadre de son enquête sur le juge Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême, à condition que tout soit fait à la fin de la semaine. Selon la presse, cette autorisation fait suite aux critiques des démocrates selon lesquelles la Maison-Blanche tentait de limiter la portée de cette enquête sur les accusations d'agression sexuelle contre le juge Kavanaugh. Christine Blasey Ford a dit la semaine dernière à la commission judiciaire du Sénat que cette agression a eu lieu en 1982. Ce qu'a démenti avec véhémence M. Kavanaugh. 2 autres femmes ont fait des allégations similaires de méconduite sexuelle contre lui.
Les Québécois ont porté pour la première fois au pouvoir lundi la coalition Avenir Québec du multimillionnaire François Legault, un parti nationaliste non indépendantiste qui souhaite réduire la taille de l'État et l'immigration. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les libéraux du premier ministre fédéral, Justin Trudeau. Ces derniers avaient déjà en juin perdu l'Ontario, la province la plus riche et la plus peuplée, au profit d'une autre formation conservatrice. Les législatives prévues dans un an s'annoncent donc incertaines pour M. Trudeau dans un contexte de montée du nationalisme.
Téhéran a annoncé lundi avoir mené une attaque de missiles et de drones contre des positions djihadistes en Syrie, première phase de sa vengeance après l'attaque ayant endeuillé la ville iranienne d'Avaz le 22 septembre. L'attaque qui pourrait être perçue comme un nouveau signe de l'avancement des capacités balistiques iraniennes, décriée par l'Occident, a visé la région de Boukamal dans l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne, selon un communiqué des gardiens de la révolution.
L'Assemblée générale annuelle des Nations unies s'est achevée lundi par des échanges acrimonieux entre l'Arabie saoudite et l'Iran, chacun accusant l'autre de soutenir le terrorisme dans le monde. Pour un diplomate iranien, je cite, « la source du terrorisme qui vise les innocents du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord en passant par l'Europe et le royaume d'Arabie saoudite ». Fin de citation. La délégation saoudienne a répliqué en dénonçant un régime iranien qui a toujours recours aux mensonges. Des missiles balistiques de fabrication iranienne continuent d'être lancés sur l'Arabie saoudite par les rebelle yéménite Houthi, a affirmé une diplomate saoudienne. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le groupe hôtelier américain Marriott International annonce vouloir accroître de 50% son portefeuille d'hôtels en Afrique d'ici 2023. Marriott a révélé avoir déjà signé des accords pour l'ouverture de nouveaux hôtels au Ghana, au Kenya, au Maroc, en Afrique du Sud et au Mozambique, sans préciser le nombre exact de ces nouveaux hôtels. Présent dans 21 pays africains, le groupe Marriott prévoit d'étendre sa toile vers le Bénin, le Botswana, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal. Au Soudan, la Banque centrale envisage l'émission de nouveaux billets d'une valeur de 100 livres qui devraient bientôt entrer en circulation pour la première fois. Ils visent à atténuer la pénurie de liquidités qui secoue l'économie soudanaise depuis plusieurs mois et qui a entraîné une baisse considérable des limites de retrait quotidien d'argent. Ils devraient également permettre de réduire une inflation galopante estimée à plus de 60% et qui avait fait chuter la valeur de la monnaie locale. Et enfin, le Maroc qui envisage d'émettre un eurobond d'environ 1 milliard de dollars et revenir sur le marché international de la dette en 2019 après environ 5 ans d'absence. Le gouverneur de Banque Al-Maghrib a confirmé l'émission d'euro-obligations durant le prochain exercice budgétaire sans révéler la date exacte ou le montant de l'opération.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Jour J pour les demi-finales de la Ligue africaine des champions.
Oui, les Égyptiens d'Al Ahly, détenteurs du record de victoires dans la compétition avec 8 titres, tenteront de creuser l'écart ce mardi au Caire en demi-finale aller de cette C1 face aux Algériens de l'Entente Sétif, tombeurs en quart de finale détenant du titre marocain du Wydad Casablanca. L'autre affiche du dernier carré mettra aux prises les Tunisiens de l'Espérance à un invité surprise en pleine confiance. Il s'agit des Angolais du Primero Agosto.
On jouera aussi en Ligue des Champions en Europe.
Faux pas interdit en Ligue des Champions pour les clubs de Manchester. United doit mettre fin à une série noire entre mauvais résultats et brouille de vestiaire, tandis que City doit se relever de son entame loupée contre Lyon. À Old Trafford, Manchester United n'a plus le droit à l'erreur et devra battre Valence. Manchester City, en tête du championnat après 6 succès en 7 rencontres, devra se refaire à Hoffenheim en Allemagne. Dans les autres matchs, le Bayern Munich voudra poursuivre à domicile son sans faute face à l'Ajax d'Amsterdam. Comme la Juventus à Turin face aux Young Boys de Berne, les Italiens seront toutefois privés de leur star portugaise, Cristiano Ronaldo, exclu du premier match. Le Real Madrid, l'ancien club du Portugais, sera à Moscou pour défier le CSKA sans son capitaine Sergio Ramos ni l'ailier Gareth Bale, touché aux adducteurs.
Et José Mourinho dit ne pas craindre pour son poste.
Oui, l'entraîneur de Manchester United a affirmé ne pas craindre pour son poste hier en conférence de presse avant, je le disais, de recevoir Valence lors de cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Quand même, Idrissa, pour Manchester, c'est le plus mauvais départ en Première Ligue depuis 1900. 89.
Championnat du monde de volleyball féminin.
Deuxième défaite du Cameroun face aux Néerlandaises, 3-7-0. Elles avaient déjà été battues par les Allemands lors du deuxième match de ce championnat du monde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, une vingtaine de civils Touareg ont été tués en fin de semaine dernière par des assaillants armés dans le nord-est du pays lors d'une précédente tuerie le 25 septembre dans des circonstances similaires à l'ouest de Menaka. Le ministère de la Sécurité avait fourni un bilan de 27 morts évoquant des affrontements entre des membres de la communauté Touareg. Yacouba Ouédraogo a joint Moussa Ag Assarid, chargé de la coopération et du développement des mouvements de l'Azawad.
Ce qui s'est passé, d'après les informations que nous avons reçues, c'est un groupe sur plusieurs motos qui a envahi un campement et qui a fait ce massacre ignoble. Ce sont des individus plus souvent attribués à des groupes terroristes qui sévissent dans cette partie-là. C'est la suite de la déflagration qui a eu lieu depuis l'accord d'Alger où les groupes se sont éparpillés dans le territoire et il y a des vengeances de ces groupes-là sur d'autres groupes qui ont, eux, des relations avec l'État malien, qui, des fois, avec l'armée malienne, font des opérations dans cette région de Menaka.
Qui sont ces groupes-là qui s'en prennent aux Touaregs dans cette partie du Mali?
On ne connaît pas exactement leur identité. Le plus souvent, ils ne revendiquent pas leurs attaques. Ils les font en catimini et puis après, ils s'en vont comme ils sont arrivés. Donc, ce qui est déplorable et que nous condamnons, c'est vraiment de s'en prendre à des populations civiles qui sont hors de combat.
Justement, vous l'avez dit, ils ne revendiquent pas leurs attaques, mais pourquoi s'en prennent-ils aux Touaregs? De quel type de conflit s'agit-il?
C'est un conflit politique sur lequel se sont agrégés des individus qui ont des intérêts ou qui ont des objectifs différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire simplement que ce sont des Touaregs qui sont visés par-ci, par-là. Ce sont des populations civiles, point. Des fois, ce sont des Peuls, des fois, ce sont des Songoï, des fois, ce sont des Arabes, des fois, ce sont des Touaregs. Cette fois-ci, effectivement, c'est un campement essentiellement Touareg.
D'aucuns parlent d'un règlement de compte entre différentes communautés Touareg. Croyez-vous à cette hypothèse-là?
Non, je ne crois pas trop, mais il y a quand même des règlements de compte. Maintenant, est-ce que ce sont des règlements de compte entre groupes ethniques? De fait, c'est aussi ça. Mais c'est instrumentalisé.
Instrumentalisé par qui?
Par ceux qui ont intérêt, c'est-à-dire on ne sait pas à qui profite le crime. Il y a eu à un moment donné des milices qui ont été créées, des milices supplétives de l'armée malienne. Et maintenant, ceux que les milices attaquent ou ceux que certains attaquent qui sont militaires, ils s'en prennent aux populations civiles qui sont accusées d'être proches de ceux qui sont armés.
Moussa Ag Assarid, chargé de la coopération et du développement des mouvements de l'Azawad, joint à Paris.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Togo, le recensement électoral a démarré hier dans le cadre des échéances électorales d'ici la fin de l'année. Le 16 décembre pour le référendum et les élections locales et le 20 décembre pour les législatives. La coalition des 14 partis de l'opposition avait appelé au boycott de ces opérations. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Le recensement électoral a effectivement débuté dans la zone sud du pays, malgré l'appel à la suspension lancé par la coalition des 14 partis de l'opposition. Au premier jour de cette opération, l'affluence n'est pas celle des grands jours, comme l'a constaté VOA Afrique au centre EPP Hedranawe. Moutoulidi Zewani, président comité des listes et cartes CLC, quitte 1.
Les activités ont démarré comme prévu. C'est vrai qu'il y a eu un petit retard, mais tout a bien commencé. Les gens sont là et on a commencé par faire les actes. Tout se passe à merveille. Les kits fonctionnent. Mais on a un petit souci par rapport aux prises. Les techniciens sont en train de venir pour installer les prises.
Aux côtés des kits mal ou pas du tout configurés, s'ajoute une lenteur dans les opérations. Il faut patienter pendant au moins 2 heures. normal que les électeurs perdent patience. Nous sommes venus pour nous inscrire sur la liste électorale, mais les opérateurs sont lents. Nous perdons du temps ici. C'est important qu'en tant que Togolaise, je dois avoir ma carte d'électeur et le jour du scrutin, je pourrai aller voter facilement. Mais sans carte, je ne pourrai pas accomplir mon devoir civique.
Ça traîne, tout le monde n'a pas le temps. On est seulement qu'à peine que je suis de 20 de personnes. Depuis le matin, on n'a pas encore fait la moitié d'aller au service. On a laissé un pour venir et faire notre carte. Mais si on reste ici jusqu'au soir, qu'on n'allait pas faire notre carte, on va revenir encore le lendemain. Nous sommes citoyens togolais. C'est notre devoir de faire la carte et de voter.
La coalition des 14 partis de l'opposition appelé au boycott de ces opérations de recensement électoral. Pour Esso Agnala, l'opposition est dans son rôle.
Les politiciens, il y a des moments où ils prennent des dispositions qui les arrangent, parce que ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Donc pour eux, ils veulent qu'il y ait des difficultés pour qu'on sache qu'effectivement, la gouvernance n'est pas bonne. Donc c'est une logique pour les politiciens. Je ne peux pas dire que ce qu'ils ont fait, c'est mauvais, mais c'est leur logique.
Notons que ce 30 septembre, la C14 a envoyé les noms de ses 8 représentants devant siéger à la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'Assemblée nationale. En attendant leur intégration effective, la Commission continue de préparer les élections de décembre prochain. Kailosan, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
L'Assemblée générale des Nations unies, qui vient de s'achever, aura accueilli des centaines de chefs d'État et de gouvernement. La question migratoire a été au menu du débat général. Selon El Hadjessi, le patron de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la protection des migrants ne devrait pas passer au second plan. Il a fait des plaidoyers auprès des décideurs pour le respect de la dignité des migrants. Une interview de Raissa Girondin.
Il s'agit donc d'une part de rappeler l'état des souffrances humaines qui existent de nos jours et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour voir comment amoindrir ces souffrances, comment sauver le maximum de vies, mais surtout comment contribuer à aider les gens à recouvrer ce qu'ils ont perdu en cours de route à cause de tous ces chocs, leur propre dignité humaine. Comme les Nations Unies, quand même, c'est un forum politique où les dirigeants du monde se trouvent. Il faut faire un plaidoyer pour que des solutions politiques soit apporté aux problèmes politiques.
Qu'est-ce que vous pensez que les dirigeants, les leaders africains devraient faire en plus pour pouvoir corriger ce problème de la migration?
Il faut mettre les choses en perspective. La migration, c'est un phénomène humain naturel. Mais ne nous voilons pas la face. Il y a aussi cette migration internationale et cet espace, malheureusement, a été laissé aux trafiquants et aux passeurs qui en font un business, qui gagnent jusqu'à 35 milliards de dollars par an, selon l'OIM, en exploitant les misères humaines, en vendant des illusions aux gens. Et au bout du compte, plusieurs jeunes Africains meurent dans le désert, plusieurs jeunes Africains meurent en mer Méditerranée. Et que doivent faire maintenant les dirigeants? C'est d'abord prêter une attention particulière à ce phénomène. C'est également aussi protéger les gens le long des routes migratoires. Il ne s'agit pas de leur dire partez ou ne partez pas, mais qu'ils aient quand même une décision qui soit informée. Il s'agit également aussi de prendre ses responsabilités par rapport à ses propres citoyens. Ces gens qui meurent, ben, c'est un silence assourdissant autour de cela. Et ce sont nos volontaires du Croissant-Rouge libyen sur les berges donc, de la Méditerranée qui les enterrent sur place. Ceux-là qui retournent souvent parfois ne bénéficient pas d'un retour digne, ont la honte de leur communauté et ceci n'encourage pas seulement.
Parlons des travailleurs même de la Croix-Rouge. Qu'en est-il de leur sécurité?
La Croix-Rouge est née dans un champ de bataille. C'est là où il y a le plus de besoins. Malheureusement, c'est là où il y a le plus grand danger. D'abord, on se forme sur les dangers pour pouvoir mieux les gérer. On s'équipe pour se protéger contre les maladies. Vous avez sans doute vu les équipements des personnes qui font les enterrements au niveau donc, des épidémies d'Ebola. Mais quand on aura fait tout cela, on n'élimine pas tous les risques.
Est-ce que vous avez déjà eu un travailleur contaminé par la maladie d'Ebola?
En Sierra Leone, la dernière fois, quand il y avait l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, On a eu un chauffeur qui, dans le cadre maintenant du transport des personnes décédées, était contaminé. Heureusement, on ne l'a pas perdu. Dans les situations de conflit, on n'y parvient pas toujours. On a perdu beaucoup de volontaires et de staff en Syrie. Près de 67 d'entre nous, ils sont morts. Au nord du Nigeria, ils ont exécuté froidement une sage-femme de la Croix-Rouge qui y travaillait. Les gens qui vivent dans ces régions, on vient, on leur apporte de la santé, on leur donne des vivres. Ils crient pour la paix, ils aspirent à leur dignité. Et c'est la raison pour laquelle ce plaidoyer est extrêmement important.
C'était El Hadj Sy, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, interviewé à New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le chanteur Charles Aznavour est mort à l'âge de 94 ans dans le sud de la France. En 70 ans de carrière et plus de 40 ans de succès, Aznavour a composé plus de 1400 chansons en 8 langues, donné des milliers de concerts dans 82 pays et participé à une soixantaine de films. Nanit Talani.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là.
Né à Paris de parents arméniens, Charles Aznavour passe son enfance dans un cadre très artistique. Son père restaurateur et sa mère comédienne recevaient tous les artistes d'Europe centrale. Il est connu pour ses chansons comme La Bohème.
Ça voulait dire on est heureux.
Charles Aznavour a aussi écrit pour Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Edith Piaf, qui l'ont soutenu, ainsi que Charles Trenet. La critique, jusqu'alors très aigre à son endroit, le consacre enfin vedette du Music Hall, ébloui par son fameux concert à l'Alhambra de Paris. Mais c'est 3 semaines plus tôt que ses talents de comédien cette fois sont reconnus dans « Tirer sur le pianiste » de François Truffaut. Chanteur à plein temps, acteur à ses heures perdues, il avait fait des passages remarqués au cinéma avec quelques 80 films. Charles Aznavour est un précurseur. Il s'est intéressé à tous les styles de musique. Selon lui, c'est pour ça qu'il a eu du succès dans les pays du Maghreb, chez les Juifs et les Russes. Il était très apprécié dans presque tous les pays francophones d'Afrique.
Ils sont venus et nous sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir.
Charles Aznavour n'a jamais caché son amour pour le pays de ses parents. Et l'Arménie lui a d'ailleurs toujours bien rendu. Depuis 2011, à Erevan, un musée est consacré à sa vie. En décembre 2008, il avait été fait ambassadeur d'Arménie en Suisse. « Je ne suis pas vieux, je suis âgé, ce n'est pas pareil », se plaisait-il à nuancer. Une façon espiègle de défier le poids des années qui ont fini par avoir raison sur sa joie de vivre.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.